Les carnets du soir, avec l'abbé Denis Veilleux.
Bonsoir. Les carnets du soir vous proposent ce séjour au Mexique, dont le cœur fut le sanctuaire Notre-Dame de Guadeloupe. Je vous invite à découvrir avec moi ce lieu et les différentes facettes de ce parcours. Nous allons faire un autre parcours ensemble. C'est toujours intéressant et fascinant pour moi de vous amener. De vous amener d'une certaine façon parce que j'y suis déjà allé. Alors, comment amener quelqu'un dans un endroit qu'on a déjà visité? Eh bien, c'est toujours une grande joie pour moi de faire découvrir ces lieux particuliers à travers le monde qui nous permettent d'avancer. C'est toujours un chemin, vous savez. Jésus, d'ailleurs, a dit « Je suis le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Il est le chemin de tous nos chemins. Le chemin lorsque je vais à tel endroit, le chemin lorsque je rencontre telle personne, et nous sommes toujours en mouvement, d'une certaine façon. Alors Jésus est le chemin. C'est celui que nous cherchons à travers tous ces déplacements également. Eh bien, c'est lui aussi, dans la puissance de l'Esprit-Saint, qui oriente les directions. Parce que le chemin dont je vais vous parler n'est pas celui que j'avais choisi au préalable. Depuis plusieurs mois, je réfléchissais et je pensais à une autre destination. Et voilà qu'un événement important arrive dans ce pays, une inondation majeure au sud du pays, là où se trouvent les racines chrétiennes de ce pays. Alors, je remets en cause le projet de me rendre là, et là, je réfléchis autrement. Alors, j'essaie d'écouter ce qui se passe au plus profond de moi-même, et je me dis vers quelle direction l'Esprit-Saint va-t-il me pousser? Et la direction était le Mexique. Et pourquoi? Dans ce momentum aussi, parce qu'il y a des moments. Si Jésus est le chemin, c'est qu'il y a un tracé particulier à travers l'histoire. Et il faut écouter l'histoire et il faut écouter l'aujourd'hui de l'histoire. Et dans l'aujourd'hui de l'histoire, c'est l'année de la miséricorde. Alors, année de la miséricorde dans le monde entier, le pape François a ouvert des portes saintes un peu partout. Quelle est la patronne des Amériques ? La patronne des Amériques, c'est Notre-Dame de Guadeloupe. Alors, c'est la Vierge de Guadeloupe. Et où se trouve Guadeloupe, cette Vierge? Eh bien, elle s'est présentée au Mexique, et particulièrement dans la banlieue de Mexico. Alors, c'est là que mon cœur va m'amener à réfléchir, et je me dis, c'est vers cette direction que je vais prendre. C'est là où je vais aller pour vivre ces événements. Vous savez, lorsque je pars, je ne sais jamais tout ce qui va m'arriver. C'est extraordinaire tout ce qui arrive. Toutes ces rencontres, toutes ces personnes qui nous enrichissent. Ces coutumes, ces cultures, ces peuples également. Je ne suis jamais allé au Mexique. J'ai souvent entendu parler du Mexique. J'ai entendu parler d'Acapulco. J'ai entendu parler de Puerto Vallarta, j'ai entendu parler de Cancun, j'ai entendu parler de Riviera Maya. Alors ce sont les directions que bien des gens d'ici prennent pour se reposer, pour aller en vacances. Il y a le Mexique des vacances des gens d'ici. Alors ils s'en vont sur ces magnifiques plages et prennent le temps de se reposer, de se divertir. Et ils reviennent, sont allés au Mexique. Eh bien moi, ce sera un peu différent, parce que aller au Mexique, c'est aller au cœur de cette expérience de la foi d'un peuple qui a été bouleversé par un événement qui est arrivé en 1531, un événement qui a complètement changé, je dirais, le vent de l'esprit est intervenu dans l'évangélisation de ces peuples. Et c'est pas très lointain, vous savez, 1531. C'est pas loin dans l'histoire. Et pourtant, il y avait là une situation humaine, religieuse, épouvantable, dont je pourrais vous parler un peu plus tard, tout au long de ce parcours. Alors la Vierge Marie, elle a fait quelque chose. Le Seigneur l'a envoyée comme une sorte d'ambassadrice et elle a changé la vie de millions de personnes qui étaient sous le joug d'une conception et d'une compréhension de Dieu, des dieux et de la religion absolument atroce. Donc, nous sommes partis parce que j'ai toujours un collègue, quelqu'un qui est avec moi. Jésus nous a dit « partez deux par deux ». Alors, nous partons deux par deux. C'est toujours important d'avoir un compagnon, un collègue, un prêtre avec moi qui part parce que nous avons besoin l'un de l'autre et nous avons besoin justement de ses capacités sur le plan linguistique. Il y a des personnes qui parlent facilement, en tout cas connaissent des mots mieux que moi. Moi, je connais assez bien le français. Je me débrouille un peu en anglais, mais en espagnol, pas vraiment. Donc, c'est dans ce contexte que nous allons partir. Alors, nous quittons Québec pour Toronto, et Toronto, nous allons en direction de Mexico. C'est un dimanche. Et c'est une date que j'aime, c'est le 31 janvier. Alors, 31 janvier, c'est la date de mon ami Don Bosco. Alors, Don Bosco, dans ma vie, c'est une grande affection. C'est une grande affection. C'est quelqu'un que j'ai rencontré spirituellement et qui m'a aidé dans des moments difficiles, parce que c'est un prêtre qui a eu une manière de vivre, qui a une très grande foi en Dieu, une très grande foi en Jésus, un amour de l'Église et aussi un amour de la Vierge Marie. Alors, Don Bosco, vous le savez, s'est occupé de la jeunesse, des enfants, et tout cela a fait en sorte que la figure de Don Bosco est très importante encore aujourd'hui dans le monde. Et c'est un prêtre qui m'aura inspiré et qui m'inspire toujours. Alors, nous partons le 31 janvier et nous arrivons en Mexico. Alors, lorsque nous arrivons en avion, alors c'est sûr qu'on a les yeux tout grand ouverts et on regarde. Alors, ce sont des images qui sont un peu différentes de la neige qu'on a quittée. Alors, à vol d'oiseau, on admire cette grande cité de Mexico de 60 kilomètres de long. Vous imaginez? 60 kilomètres de long avec ses 22 millions d'habitants. C'est du monde. Alors, c'est très impressionnant de voir cette ville de Mexico, cet emplacement qui ressemble à comme un immense espace entouré de montagnes. Et les montagnes sont quand même assez hautes, puisqu'on y voit les neiges éternelles, là. On voit de la neige, et tout en bas, ben, il n'y en a pas. Donc c'est une immense plaine, comme je vous le dis, une grande cité sur 60 kilomètres, avec 22 millions d'habitants. C'est très impressionnant. Et c'est une température assez agréable qui nous attend. Nous sommes attendus par le Père Christian. Le Père Christian est connu par mon collègue. Moi, je ne le connais pas personnellement, mais c'est ainsi qu'on arrive à Mexico. Alors, vous savez, il faut toujours se poser quelque part. Et pour se poser quelque part, bien, on a des liens, on a des contacts. Et là, on réussit à faire en sorte que les choses fonctionnent. Et lorsque nous atterrissons à l'aéroport de Mexico, eh bien, c'est le Père Christian qui nous attend. Et vous savez, être attendu dans un pays inconnu, c'est quelque chose d'important. C'est se confier aux yeux de l'autre. Alors on arrive, nous, avec notre histoire, avec ce que nous sommes, nos premiers regards, nos premières impressions, évidemment, ce que nous portons aussi, mais nous sommes accueillis, nous sommes attendus par quelqu'un qui va nous prendre en charge, qui va nous conduire, se laisser conduire. Et les premiers instants sont, il me semble, ils sont très, très importants parce que c'est le contact humain, là. C'est, on sent la personne et la personne nous sent aussi dans le sens bien, bien compréhensif qu'on se connaît ou on se reconnaît ou on se connaîtra, où il y aura un plus. On le sent tout de suite, cela. Quand il y a une ouverture, quand la porte s'ouvre, on sent que nous allons entrer dans une expérience qui va nous ouvrir à plus. On peut sentir parfois le contraire. On sent un accueil assez froid, un accueil qui est assez ordinaire, qui est fermé. Et là, on sent bien que c'est ce petit trajet tout simple de l'aéroport à l'endroit où nous irons. Et ce sera fini, hein. On n'ira pas plus loin. Mais là, c'est pas ce qu'on sent. On sent vraiment un accueil, une porte qui va s'ouvrir et qui va en ouvrir d'autres. D'ailleurs, la rencontre avec celui qui sera notre guide ne tardera pas. Donc, le Père Christian nous amène déjà chez le professeur Guillermo. Alors, Guillermo est professeur à l'université au Mexique. Il enseigne l'histoire. Alors, c'est un père de famille très cordial. Il parle assez bien le français. Il dit qu'il parle pas bien français. Vous savez, on est tous un peu pareils, mais il se débrouille très, très bien. Très, très, très gentil. Et tout à coup, il vient dans la rue parce que le Père Christian, s'est stationné. Et là, Guillermo est arrivé, mais nous, on ne connaît rien de son histoire. Alors, on va découvrir en quelques instants son histoire. Alors, on sait qu'il est professeur d'histoire en plus. On connaît un peu son parcours. C'est un homme aussi qui a eu un parcours spirituel, religieux assez important pendant plusieurs années. Et ensuite, il y a eu ce mariage et les enfants sont arrivés, deux garçons qui sont là. Donc, invitation subite à saluer sa famille. Alors ça, c'est très, très, très important. Alors, très heureux de nous accueillir, mais tout de suite, on va à l'essentiel. Il veut nous présenter son épouse, Marie-Eugène, et les deux garçons, et les grands-parents maternels qui sont là. Alors, tout le monde est fort sympathique. Ils sont très contents de nous accueillir dans leur demeure, leur maison. Et d'ailleurs, il y a une expression au Mexique. On peut la retrouver aussi un peu partout, mais elle est très particulière. Elle dit ceci. « Ma maison, c'est ta maison. » Ils nous le disent dans leur langue, en espagnol. « Ma maison, c'est ta maison. » Alors, on est vraiment accueillis chez eux. Mais leur chez-eux devient notre chez-nous. Alors c'est impressionnant et ça se sent. Alors on est invité, on s'assoit et vous savez, les Mexicains, alors ils nous servent quelque chose. Hein. Ils nous servent pas seulement de l'eau. Alors on ne peut pas se défiler devant la tequila. Alors c'est la boisson qui nous est servie. Bon. Parfois avec toutes sortes d'autres mélanges, mais c'est ce qu'on nous fait goûter. Moi, je prends très très peu d'alcool, alors j'y goûterai un peu. C'est quand même assez costaud. Et là, après, nous allons repartir, reprendre la route avec le Père Christian et Guillermo, qui seront nos guides tout au long de cet après-midi, parce que nous sommes arrivés en fin de matinée. Vous voyez, le temps passe. Il y a une heure de décalage entre le Canada et le Mexique. Donc, on se retrouve dans ce contexte. Et c'est le moment où on doit prendre quand même le repas. Donc, alors, on déambule dans la ville en auto. Alors, on regarde cette architecture, nous circulons sur des artères, on voit les gens, le monde, il y a beaucoup de monde. Vous imaginez, s'il y a du monde. 22 millions d'habitants sur 60 kilomètres, c'est du monde. Ce sont des autobus, il y a un métro, il y a beaucoup de véhicules, énormément de taxis, évidemment. Alors, on plonge dans cet univers. Alors, on visite d'une certaine façon Mexico. Et Guillermo nous donne des repères fort intéressants. Et on arrive, parce que c'est l'heure, on a faim, évidemment, il faut manger. Et là, il nous amène dans le restaurant le plus ancien de Mexico. Alors, c'est un restaurant qui est dans un lieu particulier, c'est une aile d'un ancien couvent de Dominicains. Alors, je vous expliquerai un petit peu ce qui est arrivé avec cette histoire. D'ailleurs, quand on entre, on voit bien qu'il y a eu une influence religieuse dans l'architecture, dans les arcades, ça se voit. Donc, nous sommes dans ce restaurant le plus ancien de Mexico. Alors, c'est un dimanche, la nourriture est typique, nos hôtes nous avertissent que la nourriture peut être très épicée. D'ailleurs, on va toujours le demander, parce que quand le feu nous arrive dans la gorge, c'est pas le temps de crier, hein. On doit le demander avant. On doit demander avant si la nourriture est trop épicée ou non, avant de crier. Alors, je peux vous dire que j'ai toujours demandé, je n'ai jamais crié, heureusement. L'ambiance est agréable, très agréable en ce dimanche. Il y a même des musiciens. Il y a un pianiste, contrebasse, violon. Il y a des gens de tous âges. Et ce qui me frappe, ce sont les familles. Il y a des familles. C'est beau, c'est agréable. Et quand je parle de famille, il y a les parents, les enfants, les grands-parents. Ils font partie de l'expérience d'être ensemble. Et au menu, eh bien, ce sera un poulet avec riz, c'est excellent. Et comme dessert, fromage avec marmelade. Avez-vous déjà essayé ça? Eh bien, vous le ferez. Fromage avec de la marmelade. C'était très, très, très bon. Les carnets du soir se poursuivent avec une lecture en continu du livre « L'impossible » ou « Les sept marches de l'escalier » dont je suis l'auteur. L'impossible ou « Les sept marches de l'escalier ». Elle se perdait dans ses hauteurs, la montagne. Presque bleue, serpentée de brume, léchée par les rayons du soleil, elle ressemblait à une mariée drapée dans un décor d'un autre monde. L'impossible, l'appelait-on dans les villages disséminés çà et là, à ses pieds. Elle cachait ses secrets, pour que le monde des hommes ne l'envahisse ni ne la piétine. Ses sentiers aux abords faciles et tentateurs se transformaient sournoisement en pièges. Beaucoup s'y étaient risqués. Torse bombé, défiant l'aventure. Certains étaient revenus tête basse, figés dans leur silence. D'autres avaient dû trouver ailleurs une porte de sortie, sur l'autre versant peut-être, mais de ce côté-ci de la montagne, nul ne les avait jamais revus. Elle attirait l'impossible, et dans le cœur de Petit Jean s'était gravée la folie d'en faire un jour l'ascension. Souvent, il la regardait, et longuement, dans sa petite tête d'enfant, il en avait imaginé la montée. Les gens du village parlaient peu de l'impossible, commentaient avec amertume une défaite. Ils s'étaient résignés à ne plus y penser. Tous les enfants grandissaient avec le même désir caché en eux, mais lorsqu'ils osaient regarder en direction de la montagne, le monde des grands avait au fait de leur donner un petit coup de main sur la nuque, et de rabaisser ainsi le regard vers la terre, là où la vie est plus facile. Le soir, lorsque les étoiles avaient ouvert leurs fenêtres sur le monde, Petit Jean s'asseyait près du grand arbre qui étalait ses branches sur la place publique. Là, écoutant l'eau de la fontaine qui chantait doucement, il rêvait, le regard tourné vers l'impossible. Ce soir-là, la lune était apparue plus tard, et le vent poussait son monde de nuages. Petit Jean contemplait la montagne. Elle lui paraissait tantôt familière, tel un jeu d'enfant. Tantôt, soudainement dressée, comme une ennemie, hostile à toute possession, à tout regard. Dans le cœur de Petit Jean, des mots se donnaient la main. Un jour, je saurai qui tu es. » De jour, la place publique ressemblait à un immense bazar. On n'entendait plus la fontaine et sa chanson. C'était un carrefour transformé en marché ouvert. On y trouvait de tout, depuis l'orchidée jusqu'à la plus petite épingle. Les femmes se chargeaient les bras, les enfants couraient, riaient ou pleuraient, tandis que les hommes discutaient au rythme des pipées. Le cœur du village battait fort, là où arrivaient toutes les nouvelles qui repartaient aussi rapidement qu'elles étaient venues, déjà déformées, pour s'en aller se perdre dans le labyrinthe des commérages. Petit-Jean était heureux à travers tout ce monde. Il les connaissait presque tous. Ce matin-là, il vint s'asseoir près de celui qu'on surnommait affectueusement Pépé Antoine. Ce dernier le salua des yeux et de sa canne, selon son habitude, en lui donnant un petit coup sur la jambe, en guise de bienvenue. Petit-Jean aimait le vieux Pépé, et il venait souvent s'asseoir avec lui. Ils n'échangeaient pas beaucoup de paroles, mais ensemble, comme des connaisseurs, ils scrutaient ce bouillonnement de vie de leur petit village. Parfois, toujours sans se parler, ils repéraient les situations cocasses et se mettaient à rire ensemble, tels deux complices. Le vieux Pépé avait, dit-on, fait la guerre. Toutefois, il n'en parlait jamais. Et lorsqu'il découvrait les ruses ou subtilités qui voulaient violer ce silence, il se levait et rentrait chez lui tout simplement, boitant de la jambe droite. Il ne fallait pas toucher à ce douloureux passé. Ce jour-là, le soleil éclatait et le cœur de Petit-Jean battait fort. Il se tourna vers le vieux Pépé, intrigué par le pétillant regard de Petit-Jean. « Pépé Antoine, tu sais mon âge ?» Le vieux Pépé le regarda, un peu étonné, et sourit. « Printemps de vie, voilà mon âge !» s'exclama Petit-Jean. « Et toi ?» Pépé Antoine leva les yeux. Il regardait au loin. « Hiver ou automne ?» fit Petit-Jean. Le vieux Pépé fixait le lointain vers la montagne, toujours muet. « Quel âge est là, la montagne ?» demanda Petit-Jean. Lourdement, le vieux Pépé répondit « L'âge du monde, Petit-Jean. » « Pépé Antoine, dis-moi que je peux la gravir. »« Petit-Jean !» fit brusquement le vieillard, en levant la main. « On ne parle pas de l'impossible ici, tu sais bien !» Pépé Antoine avait eu le réflexe de tant d'autres gens du village qui rabattaient la tête des enfants et leurs rêves. « Pépé Antoine, tu la connais, toi, l'impossible ?»«
Je connais ses griffes. »«
Alors ?
Tu y es déjà monté ?»« J'y ai perdu quelqu'un. »
Le vieux Pépé se leva comme il le faisait quand on voulait lui soutirer quelques souvenirs de guerre, puis s'en fut, boitant toujours de la jambe droite. Le soir était revenu avec son cortège d'étoiles. La lune avait montré son visage qui peu à peu perdait sa face. Petit-Jean avait rejoint son arbre et la fontaine. Une à une, les lumières s'éteignaient dans les maisons. Petit-Jean regardait toujours vers la montagne, et les paroles du vieux Pépé Antoine jonglaient en lui.
« Elle a l'âge du monde, » avait-il dit.
Et Petit-Jean s'amusait à dire « Je connais ton âge, impossible. Je connais ton âge, tu as l'âge du monde. » Appuyé sur son arbre, Petit-Jean vit soudain une écorce s'en détacher. Il la regarda longuement, en la faisant jouer entre ses doigts, puis la jeta près de la fontaine. D'autres paroles lui revinrent à l'esprit, qui jetaient en lui un doute.
« J'y ai perdu quelqu'un !»
avait échappé Pépé Antoine. La mystérieuse impossible dévorait-elle ainsi ce qui l'approchait? Il se leva doucement, et pareil au vieux Pépé, rentrant chez lui, il boitait dans ses pensées. On avait envahi la place publique très tôt ce matin-là, comme à chaque vendredi jour de poisson frais. Plus criards étaient les enfants et moins patientes les femmes.
Les hommes, eux, parlaient plus fort et, moins tolérants qu'à l'accoutumée, discutaient de choses d'État ou de mairie. Un souffle de mécontentement courait sur la place. Et ce jour-là, les enfants qui volaient toujours une pomme ou un raisin se voyaient offrir des raclées par les marchands en colère. Le ciel était gris et tout d'un coup, on pouvait lire sur les visages ce que la vie avait écrit de médiocre dans l'histoire du petit village. Les tensions, les conflits, les désaccords y étaient plus visibles. Le poisson frais serait leur unique dénominateur commun ce jour-là. Petit Jean s'était placé debout, près du grand arbre, et regardait cette mêlée qui, tête basse, ruminait l'agressivité. Pépé Antoine n'était pas au rendez-vous près de la fontaine, et Petit Jean le cherchait des yeux à travers le chahut de la foule. Soudain, il sentit quelque chose qui lui chatouillait la jambe. C'était Pépé Antoine derrière lui, qui le taquinait du bout de sa canne. Ils se mirent à rire d'un même cœur. Petit Jean avait eu un instant de timidité, une sorte de pudeur, comme s'il s'était senti rejoint dans son monde intérieur. Pépé Antoine, solidement appuyé sur sa canne, avait tourné son regard vers l'impossible. Petit Jean l'observa quelques instants. « Ce quelqu'un que tu as perdu dans la montagne, où est-il, Pépé Antoine ?»«
Je ne sais pas. »
hésita le vieillard. « Il y a longtemps ?»«
Depuis mon printemps à moi. »
« Où l'as-tu la dernière fois ?»«
Au pied de l'impossible. »«
Et après ?»«
Après ?»« L'été est venu, puis l'automne, et me voilà rendu à l'hiver. »
Il y eut un long moment de silence. La place publique bourdonnait d'activité, et l'odeur du poisson avait soudainement envahi ce carrefour humain presque enragé de vivre ce jour-là. « Pépé Antoine, est-ce qu'on peut devenir ami de l'impossible ?»«
Je ne lui en connais qu'un. »
Après ces mots, les lèvres de Pépé Antoine s'étaient rapidement fermées, comme s'il crut avoir échappé quelque chose qu'il ne fallait pas. « Tu connais cet ami ?» interrogea Petit Jean. Le vieux Pépé le sonda droit dans les yeux un moment et reprit le chemin que sa canne et sa boiteuse connaissaient par cœur. La lune touchait les nuages qui couraient. Les derniers gamins rentraient à la maison en frappant des pieds leurs ballons. Petit Jean avait joué avec eux et s'était assis à nouveau près de son arbre. Il se mit à compter les étoiles, celles qui brillaient le plus. Quelquefois, des filantes se perdaient dans la nuit. La grande ours, elle, restait bien dessinée dans son axe habituel, estompée de temps en temps par les nuages qui couraient toujours. Ce soir-là, la montagne paraissait plus éloignée, presque avare de se montrer. Toujours fasciné par elle, Petit Jean cherchait à la saisir dans les moindres détails, la nuit comme le jour. Il fallait chercher bien haut pour en deviner le sommet. La fontaine coulait son eau tranquillement et le vent faisait rouler ici et là les feuilles séchées. Tout à coup, on vit au loin une silhouette sortir de la pénombre. Petit Jean reconnut la démarche du vieux Pépé, canne à la main, qui venait vers lui.
« Pépé Antoine, je suis là !»
s'écria-t-il.
« Je viens ! Je viens !»
soupira le vieux Pépé, s'approchant d'abord de la fontaine pour l'entendre couler. De sa main, il toucha l'eau et tranquillement, il s'approcha du grand arbre sous lequel se tenait Petit Jean. De sa canne, il le taquina comme il en avait l'habitude.
« Tu t'assois, Pépé Antoine ?»«
Si tu veux. »«
Tiens, assieds-toi ici.
Appuie ton dos contre l'arbre. Tu seras bien. » Le vieux Pépé s'assit et s'adossa à l'arbre, tout près de Petit Jean. Encore une fois, les deux compagnons tournèrent les yeux vers l'impossible. Les étoiles, la lune, tout semblait vouloir parler dans ce silence de la nuit qui veillait. Le vieux Pépé pointa sa canne vers la montagne. Il demanda à Petit Jean. Tu connais cette étoile ?
Laquelle, Pépé Antoine ? Il y en a tellement.
Celle-ci, la première de toutes. On dirait qu'elle est soudée à la montagne.
Mais ce n'est pas une étoile, Pépé Antoine. C'est la lueur d'une petite chaumière sur l'autre montagne.
Pour moi, c'est une étoile.
L'impossible dominait de sa majesté le panorama. En face, plus à l'est, une autre montagne se dressait. Mais entre les deux, plus au fond du décor, une plus petite montagne, tout à fait pointue, se dégageait en effet. Le jour, elle se distinguait plus difficilement, mais lorsque venait le crépuscule, s'allumait là-bas une petite lueur.
« N'as-tu pas déjà remarqué, petit Jean, que lorsque la nuit cherche à prendre le dessus, cette petite lumière est la première à briller au loin, vers la montagne ?»
« Il paraît que c'est là que vit la dame de la montagne, » fit petit Jean.
« Pour moi, c'est la première étoile qui s'allume pour nous. »
Petit Jean, intrigué, n'arrivait pas à comprendre. Pépé Antoine gardait le silence, pareil à celui qui n'attend qu'un mot pour reprendre le fil.
« Tu connais cette étoile, Pépé Antoine ?»
Les yeux du vieillard s'animèrent et devinrent presque étincelants dans la nuit. Il fixait la petite lueur dans la montagne.
« Oui, je la connais. »«
Depuis longtemps ?»«
Je l'ai connue au printemps de ma vie, à ton âge. »«
Quel est son nom ?»«
C'est l'ami de l'impossible, la seule que je lui connaisse et dont je t'ai parlé ce matin. »